Neuvième partie. Robben Island, le début de l'espoir. La courbe de l'amélioration de la vie en prison n'était jamais stable. Les progrès s'arrêtaient et s'accompagnaient régulièrement de retours en arrière. La moindre avancée pouvait prendre des années et être annulée en une journée. Nous faisions rouler le rocher en haut de la colline simplement pour le voir redescendre. Mais les conditions s'amélioraient cependant. Nous avions remporté une foule de petites victoires qui, additionnées, entraînaient un changement d'atmosphère dans l'île. Au bout de 3 ans passés sur l'île, on nous a donné des pantalons. En 1969, nous avons reçu des uniformes personnels de prisonniers au lieu d'avoir des vêtements différents chaque semaine. Ces uniformes nous allaient bien et nous avions le droit de les laver nous-mêmes. Pendant le week-end, nous pouvions sortir dans la cour à n'importe quelle heure. Nous n'avions pas toujours une nourriture égale, mais les prisonniers africains recevaient parfois du pain le matin. De toute façon, nous avions le droit de mettre notre nourriture en commun, si bien que les différences ne comptaient plus. On nous avait donné des échiquiers, des damiers et des cartes, et nous jouions le samedi et le dimanche. À la carrière, nous parlions presque tout le temps. Si le commandant venait, les gardiens sifflaient pour nous avertir de reprendre nos pioches et nos pelles. Nous avions neutralisé les pires des gardiens. Et nous étions amis avec les plus raisonnables, même si les autorités s'en apercevaient et les faisaient tourner chaque mois. En général, un commandant ne restait pas plus de 3 ans. Et en 1970, nous en avions déjà connu plusieurs. Cette année-là, le commandant de Robben Island était le colonel Van Aarde, un homme aimable et sans méchanceté, qui nous laissait la bride sur le coup. Mais à la fin de l'année, les autorités décidèrent qu'il fallait reprendre les choses en main et elles nommèrent comme nouveau commandant de Robben Island le colonel Piet Badenhorst. Il s'agissait d'un changement de mauvais augure. Il avait la réputation d'être l'officier le plus brutal et le plus autoritaire de tout le service des prisons. Sa nomination ne voulait dire qu'une chose. Le gouvernement pensait que nous menions une vie trop paisible et qu'il fallait y remédier d'une main de fer. Nous avons ressenti les effets de son régime avant même de l'avoir vu. Un certain nombre de règles concernant les études et le temps libre furent supprimées. On fouilla nos cellules, on confisqua nos livres et nos papiers, on nous supprima des repas sans avertissement et on nous bouscula sur le chemin de la carrière. Badenhorst essayait d'en revenir à ce qui se passait sur l'île au début des années 60. À chaque question, on nous répondait toujours non. Les prisonniers qui demandaient à voir leur avocat étaient mis en isolement. On ignorait totalement nos plaintes. Les visites étaient supprimées sans explication. La nourriture se détériorait. La censure se renforçait. Nous étions résolus à ce que les conditions ne se détériorent pas plus. Nous avons fait passer des messages aux nôtres à l'extérieur pour qu'ils réclament le renvoi de Badenhorst. En même temps, nous avons décidé de former une délégation qui irait le voir. Quelques semaines plus tard, nous avons su qu'une importante visite était imminente parce que, quand il plut ce jour-là à la carrière, on nous autorisa à nous mettre à l'abri au lieu de continuer à travailler. Le lendemain, on nous informa qu'une troïka de juges allait venir sur l'île. Les autorités nous demandèrent de désigner un porte-parole pour exprimer nos doléances, et l'on me choisit. Alors que je préparais ma rencontre avec les juges, j'appris par une source sûre qu'un prisonnier de la section générale venait d'être brutalement frappé par un gardien. Les 3 magistrats étaient les juges Jan Stein, M. E. Theron et Michael Corbett de la division provinciale de la Cour suprême. Ils étaient accompagnés du commissaire des prisons et du colonel Badenhorst. Je les ai rencontrés le jour même, là où nous travaillions. J'ai commencé à rendre compte du tabassage récent dans la section générale. Je leur ai fait part des détails qu'on m'avait rapportés, de la violence des coups et de la dissimulation du crime. Badenhorst est intervenu de façon bourrue et agressive. « Avez-vous vraiment été témoin de ce tabassage ?» Je lui ai répondu calmement que non, mais que je faisais confiance à ceux qui me l'avaient raconté. Il a grogné et m'a secoué un doigt sous le nez. « Attention, Mandela, » a-t-il dit. « Si vous parlez de choses que vous n'avez pas vues, vous allez vous attirer des ennuis. Vous voyez ce que je veux dire ?» Je me suis adressé au juge. « Messieurs, vous voyez par vous-même le type d'homme à qui nous avons affaire comme commandant. S'il peut me menacer ici, en votre présence, vous pouvez imaginer ce qu'il fait quand il n'y a personne. » Le juge Corbett s'est tourné vers les autres et leur a dit « Le prisonnier a raison. » Je ne sais absolument pas ce qu'ils ont dit ou fait, mais 3 mois après la visite des juges, nous avons appris que Badenhorst allait être muté. En juin 1976, nous avons commencé à entendre parler d'un grand soulèvement dans le pays. Il s'agissait de récits fantaisistes et improbables. La jeunesse de Soweto avait vaincu l'armée et les soldats avaient jeté leurs armes et s'étaient enfuis. Ce n'est qu'en août, quand les jeunes impliqués dans le soulèvement du 16 juin ont commencé à arriver à Robben Island, que nous avons appris ce qui s'était réellement passé. Le 16 juin 1976, 15 000 écoliers se réunirent à Soweto pour protester contre la décision du gouvernement selon laquelle la moitié des classes de l'enseignement secondaire devrait désormais avoir lieu en Afrikaans. Les élèves ne voulaient pas étudier et les professeurs ne voulaient pas enseigner dans cette langue qui était celle de l'oppresseur. Les demandes et les pétitions des parents et des enseignants n'avaient pas été entendues. Un détachement de la police affronta cette armée d'écoliers et ouvrit le feu sans sommation en tuant un enfant de 13 ans, Hector Peterson. Les enfants se battirent avec des bâtons et des pierres, et cela déclencha un immense chaos. Avec des centaines d'enfants blessés et 2 blancs lapidés, même à Sharpeville. Ces événements se répercutèrent dans chaque ville et chaque township d'Afrique du Sud. Le soulèvement déclencha des émeutes et des violences dans tout le pays. Les enterrements des victimes devinrent des lieux de rassemblement. Brusquement, la jeunesse d'Afrique du Sud s'enflamma avec un esprit de protestation et de révolte. Dans tout le pays, les élèves boycottèrent les écoles. Les responsables de l'ANC se joignirent aux enfants pour les soutenir activement. L'éducation bantoue revenait hanter ses promoteurs, car cette jeunesse en colère et audacieuse en était le produit. Ces jeunes étaient différents de tous ceux que nous avions vus jusqu'ici. Ils se montraient courageux, hostiles et agressifs. Ils refusaient d'obéir aux ordres et criaient « Amandla » à chaque occasion. Ils préféraient la confrontation à la coopération. Les autorités ne savaient pas comment s'y prendre avec eux, et ils mettaient l'île sans dessus-dessous. Les autorités désiraient tant régler le problème de ces jeunes lions qu'elles nous laissèrent plus ou moins nous débrouiller tout seuls. Nous étions dans la seconde année de grève de lenteur à la carrière pour demander la fin du travail manuel. Nous réclamions le droit d'occuper nos journées à quelque chose d'utile, étudier ou apprendre un métier. À la carrière, nous ne faisions même plus les gestes du travail, nous parlions entre nous. Au début de 1977, les autorités annoncèrent la fin du travail manuel. À la place, elles nous laissèrent dans notre section avec des choses à faire, mais ce n'était qu'une façon de dissimuler leur capitulation. Cette victoire était le résultat combiné de nos protestations incessantes et d'une question très simple de logistique. D'une façon générale, les autorités préféraient avoir un gardien pour 3 prisonniers. Même avant l'arrivée des prisonniers de la période qui a suivi Soweto, il n'y avait pas assez de gardiens. Et les jeunes révoltés exigeaient une surveillance plus grande. Ils étaient si audacieux qu'il fallait un gardien derrière chacun d'eux. En restant dans notre section, nous avions moins besoin de surveillance. Une fois le travail manuel aboli, je disposais de beaucoup plus de temps pour la lecture. Mais à Robben Island, il n'y avait pas un grand choix de livres. En 1978, après 15 années de lutte pour obtenir le droit de recevoir des journaux, les autorités nous ont proposé un compromis. Au lieu de nous permettre de lire la presse ou d'écouter la radio, elles ont mis sur pied leur propre service d'information radio, qui se composait d'un résumé quotidien et banal des nouvelles, lu sur le système de communication intérieure de la prison. Les émissions n'étaient ni objectives ni complètes. Plusieurs censeurs de Lille faisaient un résumé succinct d'informations diffusées par d'autres radios. Les nouvelles étaient bonnes pour le gouvernement et mauvaises pour ses adversaires. C'est par la radio intérieure que nous avons appris cette année-là que R.W. Botha avait succédé à John Forster au poste de Premier ministre. Je ne connaissais pas grand-chose sur Botha, sinon qu'il avait commencé comme un ministre de la Défense agressif et qu'il avait soutenu une offensive militaire en Angola en 1975. Nous ne pensions pas qu'il pourrait réformer quoi que ce soit. Mais, malgré nos nouvelles radiophoniques expurgées, nous avions appris ce que les autorités voulaient qu'on ignore. Nous connaissions les succès des guerres de libération au Mozambique et en Angola en 1975 et la naissance de ces pays comme États indépendants avec des gouvernements révolutionnaires. La marée tournait dans notre sens. En 1980, on nous a permis d'acheter des journaux. C'était une victoire, mais qui, comme chaque nouveau privilège, contenait une limitation. Si le nouveau règlement autorisait les prisonniers du groupe A à acheter chaque jour un journal en langue anglaise et un journal en langue afrikaans, il y avait une mise en garde fâcheuse. Tout prisonnier du groupe A, trouvé en train de partager son journal avec un prisonnier d'un autre groupe, perdait son privilège. Nous avons protesté contre cette restriction, mais en vain. Il y a quelque chose que je n'ai pas pu lire dans le Johannesburg Sunday Post en mars 1980. Le titre disait « Libérer Mandela ». À l'intérieur, il y avait une pétition que les gens pouvaient signer pour demander ma libération et celle de mes compagnons. Alors que les journaux n'avaient toujours pas le droit de publier ma photo ni aucune de mes déclarations orales ou écrites, la campagne du Poste lança un grand débat public sur notre libération. Cette campagne avait été imaginée à Lusaka, QG de l'ANC, et elle représentait la pierre angulaire d'une nouvelle stratégie ayant pour but de mettre notre cause au premier plan des préoccupations des gens. L'ANC avait décidé de personnaliser l'action entreprise pour notre libération en centrant la campagne sur une seule personne. Il est évident que les millions de gens qui par la suite l'ont soutenu ne savaient absolument pas qui était Nelson Mandela. On m'a dit que lorsque les affiches « Free Mandela »,« Libérer Mandela » sont apparues à Londres, la plupart des jeunes ont cru que mon prénom était « Free ». Sur l'île, quelques voix se sont élevées contre la personnalisation de la campagne, car certains pensaient que c'était une trahison de l'esprit collectif de l'organisation. Mais le plus grand nombre se rendait compte qu'il s'agissait d'une technique pour réveiller les gens. Nous avions le sentiment d'une renaissance de l'ANC. Umkhonto Wesizwe intensifiait sa campagne de sabotage, devenue plus élaborée. La campagne ranima nos espoirs. Certains matins, je sortais dans la cour et toutes les créatures vivantes, les mouettes et les bergeronnettes, les petits arbres, et même les brins d'herbe semblaient sourire et briller dans le soleil. C'est dans de tels moments, quand je percevais la beauté de ce petit recoin de l'univers, que j'étais persuadé qu'un jour mon peuple et moi serions libres. En mars 1982, j'ai reçu la visite du commandant et d'autres responsables de la prison. C'était tout à fait inhabituel. En général, l'homme qui dirigeait Robben Island ne venait pas voir les prisonniers dans leurs cellules. Je me suis levé et il est vraiment entré. Il y avait à peine de la place pour deux. « Mandela, m'a-t-il dit, je veux que vous rangiez vos affaires. « Pourquoi ?»« Nous vous transférons, a-t-il répondu simplement. « Où ?» Il m'a expliqué qu'il venait de recevoir des instructions de Pretoria et qu'on devait me faire quitter l'île immédiatement. Le commandant sortit et alla voir successivement dans leurs cellules Walter Sisulu, Raymond Mlaba et Andrew Mlangeni pour leur donner le même ordre. Quelques minutes plus tard, nous étions dans le ferry en route pour le Cap. J'ai regardé derrière moi, l'île, dans la lumière qui faiblissait, sans savoir si je la reverrais. Un homme peut s'habituer à tout, et je m'étais habitué à Robben Island. J'y avais vécu pendant près de 20 ans. Mais si je n'y avais jamais été chez moi c'était Johannesburg, j'avais fini par m'y sentir bien. Les changements m'avaient toujours paru difficiles, et le fait de quitter Robben Island ne fit pas exception. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Sur les quais, entourés de gardes en armes, on nous a entassés dans un camion sans fenêtre. Nous sommes restés tous les quatre debout dans l'obscurité, tandis que le camion roulait pendant ce qui nous a semblé durer beaucoup plus qu'une heure. Nous avons franchi plusieurs points de contrôle, puis nous nous sommes arrêtés. Les portes arrière se sont ouvertes. Nous avons monté quelques marches de ciment dans la nuit et franchi des portes métalliques pour entrer dans des locaux de sécurité. J'ai réussi à demander à un garde où nous étions. « La prison de Paulsmoor, » m'a-t-il répondu.